Le journal Loïc Barrière. Journée de grève en France, un mouvement très suivi dans les transports en commun en région parisienne. Au Liban, pas de consensus ce matin lors de la cinquième séance au Parlement pour tenter de trouver un successeur au président Michel Aoun. Aucun des candidats n'a obtenu la majorité. L'Algérie et la Chine ont signé leur deuxième plan quinquennal de coopération stratégique. Par la voix de Bruno Le Maire, la France demande à l'Italie d'accueillir l'Ocean Viking conformément aux règles européennes. Les atteintes à la laïcité à l'école en France ont augmenté de plus de 50% le mois dernier. Il faut se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Maître Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, alerte sur le danger que représente l'extrême droite en France. Enfin, à la veille des commémorations du 11 novembre, l'hommage du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shems Eddin Hafiz, aux soldats musulmans de la Première Guerre mondiale. Un jeudi noir en région parisienne, des transports en commun très perturbés. À l'origine de ce mouvement, la CGT qui réclame des augmentations de salaire. À Paris, 5 lignes de métro sont totalement fermées. Les autres ne fonctionnent qu'au ralenti. Seules les 2 lignes automatiques, la 1 et la 14, fonctionnent normalement, mais avec des risques de saturation, même difficulté pour les RER A et B. La RATP a conseillé de choisir le télétravail ce jeudi. Toujours pas de président de la République au Liban. Le président du Parlement, Nabi Berri, a ouvert la cinquième séance parlementaire consacrée à l'élection d'un successeur au président Michel Aoun, dont le mandat a expiré le 31 octobre. Mais le candidat Michel Moawad a recueilli 44 voix seulement, ce qui est insuffisant pour obtenir la majorité. 6 votes sont allés à Hissem Khalife, 7 au Nouveau Liban. 4 voix se sont réparties sur d'autres noms. On compte également 47 votes blancs. Au total, 5 séances se sont donc soldées par un échec au Parlement. Toujours au Liban, 35 nouvelles contaminations au choléra ont été comptabilisées. Ces dernières 24 heures, aucun décès n'a été constaté. En Cisjordanie occupée, un jeune Palestinien a été tué par balle hier par les forces israéliennes près du mur érigé par Israël dans le secteur de Jénin. 5 autres Palestiniens ont été blessés à Hébron. Le 18e anniversaire du décès de Yasser Arafat, chef de l'OLP et premier président de l'autorité palestinienne, le leader surnommé Abu Ammar, est décédé à Paris le 11 novembre 2004. L'Algérie et la Chine ont signé leur deuxième plan quinquennal de coopération stratégique. L'accord concerne de nombreux secteurs, l'économie, le commerce, l'énergie, l'agriculture, les sciences et technologies, l'espace, la santé et la culture. Le bras de fer continue entre Paris et Rome sur l'Ocean Viking, ce navire humanitaire qui transporte 234 migrants. L'Italie refuse le débarquement de ces personnes sur son territoire. Le bateau se trouve actuellement dans les eaux internationales, près de la Corse. La Corse et Marseille sont disposées à accueillir le navire. Mais la France n'a pas donné son feu vert à un débarquement en Corse. Bruno Le Maire s'est exprimé sur le sujet. Selon lui, la règle européenne, c'est que le bateau doit débarquer dans le port le plus proche, qui est un port italien. Les Italiens doivent donc respecter, selon lui, la règle européenne. SOS Racisme et plusieurs autres organisations comme le MRAP et la Ligue des droits de l'homme appellent à manifester contre le racisme et les idées d'extrême droite dimanche prochain. Un rassemblement à 15h sur la place de la République à Paris. Entretien avec le président de la Ligue des droits de l'homme et président d'honneur de la Fédération internationale des droits humains, Maître Patrick Baudouin.
D'une part, je crois que l'idée, c'est de se réveiller avant qu'il soit trop tard. Parce que depuis plusieurs mois, et en particulier depuis les dernières élections présidentielles et législatives, avec la montée en puissance de l'extrême droite au sein du Parlement français, on assiste progressivement à des dérives extrêmement inquiétantes en matière notamment de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme. On voit très bien qu'il y a d'abord une libération de la parole, je vais y revenir, mais qui est le préalable à la commission d'un certain nombre d'actes violents et nous y sommes déjà. Alors, ce qui nous amène à cette mobilisation, c'est encore une fois la multiplication hein, de ces propos tout à fait intolérables. Et puis, deux événements récents, notamment, entre autres, celui de l'affaire de la petite Lola avec la récupération politique invraisemblable et tout à fait, je dirais, méprisable qui a été faite de cette affaire avec des manifestations consécutives et des propos tenus, par exemple, à Lyon et dans d'autres villes de France. Immigrés dehors, immigrés assassins, donc on voit très bien qu'il y a un véritable danger. Et ce danger est venu presque en pleine lumière au sein d'une institution majeure du système démocratique et de la République française, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, avec les propos de ce parlementaire du Rassemblement national, qui n'a pas hésité à dire qu'il retourne en Afrique s'adressant à un parlementaire de la France insoumise et visant, on ne sait, mais peu importe, parce que c'était aussi grave dans un cas que dans l'autre, visant tous ces malheureux migrants qui meurent en Méditerranée, laquelle devient un véritable cimetière, sans que personne ne s'en offusque vraiment. Donc on voit qu'il est temps de donner un coup d'arrêt, ou tout au moins il est temps de faire savoir à quel point on est sur une dérive et sur une glissade dangereuse. On voit très bien qu'il y a des minorités agissantes, des reconstitutions de groupes d'extrême droite, le parti de Zemmour, mais les propos que celui-ci peut tenir et continuer à tenir malgré les condamnations pénales dont il a été l'objet. On voit qu'il y a ces minorités agissantes qui, petit à petit, distillent des propos racistes, l'étranger devenant présenté comme un ennemi, un délinquant potentiel, et ce, avec une relative complicité, hein, il faut le dire, du pouvoir et des propos du pouvoir en place. À côté de cela, une majorité de la population qui ferme les yeux, qui est silencieuse, qui ne se rend peut-être pas bien compte de ce vers quoi nous risquons d'aller, c'est-à-dire progressivement une perte de repères et une mise en péril de la démocratie avec un affaiblissement des libertés et l'accentuation des discriminations et des inégalités de tous ordres.
Vous évoquiez les propos de ce député du Rassemblement national qu'il retourne en Afrique, adressé à un député LFI qui évoquait le drame de l'immigration clandestine. Le fait que cela ait provoqué un tollé sur les bancs de l'Assemblée au sein de Renaissance, d'une partie des Républicains et de la gauche, est-ce un élément rassurant ?
Dans un premier temps, oui, parce que on a très bien vu que immédiatement il y a eu ce tollé sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, hors ceux, bien sûr, du Rassemblement national. Il y a eu une sanction qui a été immédiatement prise par le bureau de l'Assemblée nationale, une sanction assez exemplaire, puisque c'était le maximum de la sanction susceptible d'être encourue par ce parlementaire RN. Donc, cette première réaction, elle est salutaire, mais elle n'est pas de nature à rassurer complètement, parce que c'est momentané, c'est passager, et il faut aujourd'hui qu'on inscrive dans la durée ce rejet des propos haineux, des propos racistes, et je ne suis pas du tout convaincu que la même unanimité existe. Je pense en particulier à ce qu'on peut appeler la droite extrême, en dehors de l'extrême droite elle-même, c'est-à-dire la frange la plus droitière, par exemple, des LR. Donc le combat reste vraiment à mener. Il ne faut pas que ça soit simplement une sorte d'étincelle de réaction salutaire, mais qu'il y ait une prise de conscience et que, de façon tout à fait unanime, on vienne dire « Non, ça n'est pas dans notre champ démocratique. Non, la France, ce n'est pas cela. » La France, c'est une terre d'accueil, c'est une terre qui vit avec des personnes de nationalités multiples qui constituent la substance même de notre pays. Hein. Au fil des générations, on a vu affluer dans notre pays des personnes venant d'autres contrées. Et c'est notre richesse.
Maître Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, au micro de François-Xavier de Calonne. Les signalements pour atteinte à la laïcité à l'école ont augmenté de 50% par rapport à septembre. Le mois d'octobre a été marqué par 720 atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges et lycées. 40% de ces incidents concernent le port de signes religieux. Le ministère de l'Éducation demande de sanctionner systématiquement et de façon graduée le comportement des élèves portant atteinte à la laïcité lorsqu'ils persistent après une phase de dialogue. Des vidéos sur TikTok montrent des jeunes en train d'inciter les élèves à porter des tenues religieuses à l'école. Le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale prenait fin avec la signature de l'armistice. La Grande Mosquée de Paris a été bâtie en hommage aux soldats musulmans morts pour la France durant cette guerre. Entretien avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Shems Eddin Hafiz.
Le sacrifice suprême des musulmans pendant cette Première Guerre mondiale a été donc célébré de manière très forte par le pouvoir de l'époque qui souhaitait donner à ce sacrifice la place qu'il méritait au sein de la République. Et c'est ainsi qu'un projet de réalisation d'une mosquée, et à Paris et pas dans n'importe quel arrondissement, puisque c'est en plein quartier latin, c'est juste à côté du Jardin des Plantes, pas très loin de Notre-Dame, pas très loin de la faculté de la Sorbonne, des grands lycées, le lycée Henri IV, les grandes écoles polytechniques, etc. Et donc, ce choix montre à l'évidence que l'islam, à ce moment-là, entré par la grande porte de la République, était accueilli au même titre que les autres religions monothéistes, notamment puisque nous savons qu'au moment de la loi de séparation de l'État et de l'Église en 1905, l'islam n'était pas encore reconnu comme religion de France, et il a fallu quelques années, donc, et malheureusement un sacrifice de musulmans, donc que le sang musulman a coulé, pour que enfin les pouvoirs publics mettent autour de la table de la République une quatrième religion qui est donc l'islam. C'est un moment important parce que ce que je dis, c'est qu'on aurait pu prévoir la réalisation de cette mosquée dans un quartier populaire, dans pourquoi pas en banlieue. Pas du tout. Et ça, je crois que c'est l'obstination d'hommes qui, notamment le premier d'entre eux, qui est le fondateur de la Grande Mosquée de Paris, c'est Radou Ben Ravalet. Mais à côté de lui, il y avait le maréchal Lyautey. À côté de ces deux, il y avait également un journaliste qui, en 1922, s'est vu nommé à la tête d'une académie, hein, l'Académie des sciences, qui est aujourd'hui l'Académie des sciences d'Outre-mer, qui vient de fêter ses 100 ans. Donc ces trois hommes, avec beaucoup d'obstination, ont voulu absolument donner la place que méritait l'islam au sein donc des institutions de la République. Et je crois que c'est un moment important. Et donc aujourd'hui, à la veille du 11 novembre, se dire qu'il y a quelques jours de cela, le président de la République, Emmanuel Macron, est venu à la mosquée de Paris pour montrer également l'attachement d'un président de la Ve République à ce qui est aujourd'hui la deuxième religion de France. Il est venu, il est resté pendant presque 3 heures. Il a visité une exposition qui a été conçue pour expliquer aux personnes intéressées, notamment aux non-musulmans, ce qu'a été cette histoire, comment on en est arrivé à construire cette mosquée, par quels moyens, quels instruments juridiques, parce qu'il y a eu beaucoup de, je crois, de choses qui ont été dites. Et ben, il fallait aujourd'hui inscrire dans le marbre cette histoire. Et à côté de cela, le président de la République a inauguré une plaque commémorative en entrant dans la mosquée de Paris, qui rappelle effectivement le sacrifice des musulmans pour la France, et deuxièmement, la République qui a donné toute l'importance à l'islam en créant une très belle mosquée. Hein. Ça a été, comme vous l'avez dit, la première pierre, c'est la célébration de la première pierre, donc octobre 1922. Il a fallu 4 années pour réaliser cette mosquée. Cette mosquée a été ouverte aux fidèles en 1926, donc toute l'architecture a été conçue et a eu un travail, c'était pas du tout un travail bâclé. Mantou, qui était l'architecte qui a conçu donc les plans de la Grande Mosquée de Paris, est né à Alger, venait d'Alger pour réfléchir à cette architecture arabo-musulmane et en même temps rappeler ce qui était déjà dans l'Europe, notamment en Andalousie, un certain nombre de mosquées, celles de Cordoue, de Séville, de Grenade, toute cette magnifique civilisation musulmane sur les terres d'Europe, mais en même temps, un clin d'œil au Maghreb, à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, maître Chemseddine Hafiz, il répondait à François-Xavier de Calonne. Enfin, le retour du Festival international de Marrakech, interrompu pendant 2 ans en raison de la crise sanitaire. 14 longs métrages seront en lice pour l'Étoile d'Or, la récompense suprême à Marrakech. Le jury international est présidé cette année par le cinéaste italien Paolo Sorrentino. Je vous retrouve à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal, à 19h et 23h. Et si on en parlait, le thème de l'émission, la montée des radicalités politiques et de l'extrême droite en Europe et en Israël. Alexis Bachelet reçoit Inès Gilles, journaliste indépendante basée à Beyrouth, et Jean-Yves Camus, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques pour la Fondation Jean Jaurès. Excellente journée à tous.